Nous sommes avec Michèle Künzler, députée et candidate au conseil administratif. Bonjour Michèle Künzler.
Bonjour.
J'avais préparé il y a déjà à peu près un peu plus d'un mois une série d'émissions pour voir, en intitulant « La culture serait-elle l'oubliée du débat électoral ?» Il y a un mois, beaucoup d'eau a passé depuis sous les ponts, puisqu'on voit ces jours-ci qu'elle échauffe un petit peu, même surtout chez les artistes, bien sûr. Auparavant, on ne discutait pas vraiment, on ne se disputait pas véritablement sur la culture. Elle était perçue au mieux comme un objet de loisir et un passe-temps utile pour divertir le plus grand nombre. Et beaucoup, même de citoyens genevois, je suppose, ne savent pas que c'est le département enfin, qui est le mieux doté.
Et je crois que c'est équivalent, mais c'est vrai que c'est 200 millions en ville de Genève qui sont attribués à la culture. C'est vrai qu'on parle beaucoup de financement de la culture, mais finalement, on n'a pas beaucoup parlé de ce qu'on fait de la culture en ville de Genève. Et c'est vrai que c'est un débat extrêmement vaste.
Plusieurs titres. Hein.
Oui. Bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt favorable au transfert de charges, pour autant qu'il y ait nécessité de procéder à un transfert de charges. Mais il ne faut simplement pas oublier que la Confédération a reporté des charges sur le canton, que les finances du canton sont extrêmement serrées et que le canton a demandé finalement aux communes de participer à rétablir un peu les finances cantonales, puisque les communes n'ont pas subi, elles, la baisse de 12% d'impôts. Et la proposition qui a été faite, c'est de reprendre un financement où la ville avait les compétences. Et c'est clair qu'actuellement, la ville, comme on l'a déjà dit, amène 200 millions et le canton n'en amène que 23 millions. Donc c'est quand même 10 fois plus en ville de Genève.
Pour simplifier, ce qui s'est donc passé, c'est ce report de charges, alors que normalement, le canton, d'après la Constitution, c'est le canton qui, lui, devrait décider de ce qui se fait en matière de culture.
Oui, c'est pas tout à fait comme ça à Genève. En fait, ça n'a jamais été clarifié. Je crois que c'est depuis 150 ans. C'est plutôt les communes suite à la Révolution radicale, où finalement, c'est les communes qui ont pris en charge ce domaine-là. C'est vrai que dans l'idéal, et peut-être il faudra le revoir au moment de la constituante, ce serait vraiment mieux qu'on ait presque un conseiller ou une conseillère d'État de plus qui s'occupe des grandes institutions culturelles ou sportives. Mais en attendant, pour moi, ça n'a pas de sens que le canton rajoute un chouïa à des institutions qui sont déjà financées à 90% par le canton. Donc c'est vrai qu'on... Par exemple, le canton verse à l'OSR, mais la moitié est déjà obtenue par la ville. Puis surtout, il n'y a pas, sauf pour la toute petite part qui est liée à la création, il n'y a aucune mesure vraiment de décision au niveau du canton. On ajoute de l'eau au moulin là où il y a déjà... Donc, au fond, autant que ce soit une institution qui s'en charge entièrement. Et c'est dans ce sens-là, je conteste pas ce report de charges-là. C'est bien, évidemment, pour les finances de la ville, ce serait mieux d'avoir pas de report de charges du tout. Mais ça, c'est peut-être plus la question maintenant.
Alors, comment se fait-il qu'il y ait autant de bruit actuellement, que les artistes soient montés au créneau? Est-ce que c'est parce que les élections s'approchent, puisque eux prétendent que la loi a été préparée en catimini, alors que selon les communiqués du Conseil d'État, c'est au printemps 2005 que déjà des discussions entre le canton et les communes ont été entamées à la demande du Conseil d'État. Donc, ça fait 2 ans.
Vous avez tout à fait raison. Puis en plus, il n'y a rien qui a été décidé. Donc rien, c'est des fuites qui ont fait que, voilà, on projette que c'est là que le report de charges pourrait se faire. Et puis la ville a accepté ça dans le sens où il valait mieux reporter des charges là où on a déjà des compétences plutôt que d'accepter un report de charges dans ce domaine, par exemple reprendre un EMS ou autre chose, là où on n'a pas de compétences. Donc en fait, c'est à ce niveau-là que ça se discute. Et peut-être certains ont voulu faire peur aux artistes pour des raisons électorales. Ça, c'est fort possible.
Ce qui est quand même étonnant, c'est de voir des artistes qui montent au créneau alors qu'ils ont été mis à ces postes. Je pense aussi bien Grütli, par exemple, par M. Muni.
Bon, vous savez, si les artistes la craignent souvent, de s'émeuvent très vite, d'une part. Alors, c'est vrai que ça fait partie de leur talent aussi, de pouvoir s'émouvoir très vite. Donc, le côté un peu plus négatif, c'est de monter tout de suite au créneau, quand encore rien n'est décidé, et puis qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Mais bon, simplement, je pense que là, on aura plus d'explications à demander, et puis surtout... J'aimerais rappeler, moi ça m'a choqué profondément le côté que Charles Baird avait dit dans le temps, je crois. Oui, vaut mieux la folie de deux princes. J'aimerais juste rappeler qu'il ne s'agit pas de la folie d'un prince, c'est le conseil municipal où toutes les tendances politiques sont représentées qui prend l'immense majorité des décisions. Je crois que Patrice Muni peut avoir sur quelques subventions ponctuelles, je crois de l'ordre de 2-3 millions, là, il y a une possibilité d'action. Mais le reste, ça roule.
Alors, il y a aussi un autre argument, puisque le monde, ce groupe de contestataires, notamment emmené par les milieux du théâtre, a tenu une conférence ce matin à 11h30 à la Comédie. Et il y a un argument qui est aussi ressorti. Ils ont dit dans le canton, il y a 46 communes plus celle de Genève, donc il y en a 47. Et à partir du moment où cela serait dirigé donc par la ville, ils pensent qu'il y aurait donc 46 communes qui seraient dirigées par une, qui serait celle de Genève. Il y aurait peut-être cette idée de ne pas vouloir passer sous la coupe de la seule commune de Genève.
Bon, c'est pas du tout comme ça, mais parce que en fait, les autres communes, je pense notamment à celles qui ont des institutions d'importance quasiment cantonale, je pense à Forum Morin, à Thonay, à Aunay, leurs salles des fêtes qui sont vraiment aussi intéressantes, mais ces institutions vont continuer d'exister et il y aura aussi un report de charges sur ces communes, mais ce sera peut-être pas le même. Et simplement, c'est vrai, ce qui serait logique, là où je leur donne raison, c'est qu'il n'y a pas... Comme je vous le disais avant, il faudrait repenser ça au niveau de la constituante pour que ça soit dans une entité et qu'on définisse les entités d'importance régionale, type grand théâtre, musée, et puis ensuite les importances moyennes, genre Forum Merin, et puis le concert de la maison de quartier de Saint-Jean. C'est à la fois culturel, mais ça aussi a un effet local et de lien social. Et ça, c'est typiquement l'équipement de proximité, c'est autre chose. Et si on arrivait à distinguer à ces niveaux-là, et puis peut-être qu'il faudrait que l'association des communes soit plus active, et alors qu'on partage vraiment les fonds de manière claire. Mais on a vu à Lancy, les communes ont refusé un équipement d'importance cantonale. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, dans le sens où les citoyens, ville de Genève, payent 200 millions pour la culture, alors qu'ils sont même moins de la moitié des habitants du canton. Et là, il y a un réel problème.
Un problème qui risque peut-être de revenir, si vous voulez, chez les artistes d'une manière peut-être sous forme de budget moins important.
J'espère bien que non. Et c'est là qu'il faut agir, parce qu'on a des fois l'impression que la culture, c'est le petit plus qu'on s'offre. Non, c'est fondamental. Ça fait partie de l'être humain. Depuis même l'âge des cavernes, il n'y a aucune nécessité à la fois, et à la fois c'est essentiel à l'être humain. Donc on ne peut pas s'en passer. Maintenant, on verra bien. En tout cas, pour les Verts, on a dit qu'on voulait absolument maintenir le cinquième du budget communal pour la culture, c'est-à-dire tout ce qu'il y a actuellement.
Il semblerait, dernière question à ce sujet, que...
Je rappelle en plus que ce n'est pas mon domaine.
Ouais. Vous êtes quand même sur un ticket avec Patrice Muni.
Oui, tout à fait.
Alors là, c'est plutôt une question de gouvernance générale. Le milieu artistique prétend ne pas avoir été invité justement à participer à ces discussions. Et je crois que ce qu'ils demandent et ce qu'ils vont proposer lors des manifestations, je crois ce mercredi, c'est d'être invité et de faire partie des discussions. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de représentants de ces milieux, ou est-ce qu'il y en a et qui n'ont...
Non, mais parce que je crois que pour l'instant, c'est des pistes exploratoires sur la répartition des financements et qui ne concerne pas seulement la culture. On a aussi l'obligation peut-être, j'ai entendu, c'est tout aussi hypothétique que le reste, hein, de reporter sur les communes l'obligation de fournir des places de crèche. Et parce qu'actuellement, il y a des communes qui se dérobent à cet effet. Donc voilà, on en est là. C'est vraiment une discussion institutionnelle de répartition des charges, de péréquation financière. Bon, on peut faire un happening culturel là autour, mais enfin, bon, pour l'instant, c'est plutôt financier. Puis, ça aurait pu prendre une toute autre tournure. Maintenant, personne n'a dit qu'on allait économiser. Personne n'a dit qu'on allait supprimer. Il faut que ça soit bien clair.
Vous avez dit tout à l'heure que la culture passe chez beaucoup de gens pour quelque chose, un petit plus que l'on s'offre. On pourrait faire un parallèle, je crois, aussi avec l'écologie, qui peut être considérée aussi comme un luxe, puisque souvent, toutes les mesures qui sont proposées sont souvent dénigrées dans la mesure où elles coûteraient beaucoup plus cher. Je pense à des réductions de particules et autres, et c'est toujours ces coûts qui sont mis en avant. Est-ce que véritablement cette écologie, enfin ces préoccupations écologiques, vous les considérez bien sûr vous en tant que verte, pas comme un luxe?
Non, à l'évidence non. Nous, on aime la vie et on aimerait juste que ça puisse continuer et pour tout le monde et pas seulement pour un quarteron de privilégiés que nous sommes pour l'instant. Donc en fait, il faut vraiment mener une réflexion de base et je crois que en ville de Genève, qui devrait devenir une ville modèle comme d'autres. En Europe, on doit vraiment, d'une part, diminuer la consommation d'énergie globalement, mais avoir une qualité de vie qui s'améliore et avoir des relations entre les êtres humains et vivants différentes. Et c'est ça la base de l'écologie. C'est vraiment, c'est pas le petit chouïa qu'on s'offre en plus, la petite plante bio qu'on se met dans un coin ou les quelques graines qu'on mange de temps en temps en ayant été acheter ça avec son 4x4. Non, ça serait absurde.
Toit, hein.
Non, il faut vraiment que ça soit un concept global de vie. Et c'est là, dans ce sens-là, que pour nous, c'est essentiel d'avoir à la fois le côté social, à la fois le côté culturel et économique et de tout l'aménagement. Tout va de pair. On ne peut pas se distinguer simplement. Parce que pour moi, alors là, je le dis clairement, puisqu'il y a eu cette conférence sur l'écofascisme ou un truc comme ça, pour les Verts genevois, il n'y a pas de question de faire une belle nature sans les êtres humains. Donc, on est partie intégrante de la nature, donc le social et les êtres humains font partie de cette nature à Genève.
Les êtres humains, vous aimeriez les loger dans des écoquartiers. Et lors d'une confrontation récente, on a pu voir que par rapport à la droite, les écoquartiers sont appréciés des deux côtés. Il y a encore une petite chose qui fâche, c'est où mettre les voitures, puisque on voudrait, si on est plus à droite du côté politique, on voudrait aussi pouvoir mettre la voiture dans l'ascenseur, alors que vous seriez plutôt à les mettre à l'extérieur du quartier.
Oui, bien sûr, et diminuer leur nombre, parce qu'au fond, quand on voit que 90% des voitures, elles sont parquées, il y en a heureusement que 10% qui circulent, mais elles prennent quand même de la place, et c'est vrai qu'il faut... il y a le système mobility, c'est-à-dire une voiture en partage avec de plusieurs personnes, et c'est clair que c'est ça qu'il faut viser. Et puis, c'est clair qu'il faut aménager des grands espaces où il n'y a pas de voiture. Simplement pour que les personnes, les enfants puissent jouer tranquillement dehors dans la rue. Puis une chose qu'on oublie aussi maintenant, c'est les personnes âgées. Parce qu'actuellement, on est en train de construire des cités où on a de la peine à... On a de la peine à faire passer les personnes âgées. Puis je crois que maintenant, deux communes ont... Deux communes ont fait la démarche justement pour créer plus d'espace aussi pour les personnes âgées, surtout qu'on va vers un vieillissement de la population. Il faut que les aînés aient du plaisir à sortir et puissent le faire.
Nous étions en train de parler, Michel Kunstler, des éco-quartiers. Est-ce qu'il est véritablement possible actuellement? On a vu les projets qui sont à la Prague, mais il y en a d'autres qui sont dans des territoires un petit peu plus difficiles. Je pense notamment à Artemis qui fait l'objet de beaucoup de problèmes. Qu'en est-il actuellement? Que proposez-vous, puisqu'il y avait un projet normalement qui était de réhabilitation totale, avec, en gardant les artistes sur place.
Moi, je pense que c'est un projet extrêmement intéressant. Actuellement, on ne sait pas très bien où c'en est. Bon, il y a le problème de la pollution extrêmement grave qu'il y a sur ce site, qu'il faudra régler d'abord. Mais c'est un projet intéressant dans le sens où il y a une mixité d'affectation entre artistes, entre artisans aussi, et logements. Et la proposition de faire 200 logements dans ce quartier me paraît extrêmement intéressante et... Surtout dans la perspective d'avoir une vraie réflexion. C'est pas seulement de faire du minergie, ce qui est déjà très bien, mais d'avoir un concept global sur qu'est-ce qu'on dégage comme énergie, même au niveau de l'artisanat, des artistes, enfin, qui est, tout le quartier doit être pensé en fonction d'une réduction globale de l'énergie et d'attitudes. Et dans ce cas-là, on ne voit pas très bien pourquoi on mettrait des parkings souterrains encore à cet endroit. Mais c'est vrai que ça, c'est une discussion. Mais la ville a déjà fait aussi des projets. Mais pour l'instant, c'est un peu en veilleuse, en attendant de savoir comment on dépollue. Mais ça devrait bientôt sortir d'ici juin, je crois que le projet... Et là, mais il y a d'autres endroits, notamment aux Ouches, où on pourrait faire, puisque les fondations immobilières de droit public ont beaucoup de petits immeubles à cet endroit qui sont en mauvais état, qu'on pourrait démolir et reconstruire et de faire vraiment un projet d'éco-quartier et sans voiture à l'intérieur.
Et justement, avec... là, vous allez faire peur à tout le monde, puisque sans voiture est quelque chose qui fait peur.
Oui, mais je ne sais pas pourquoi ça devrait faire peur, parce qu'en réalité, bon, on peut faire des parkings, quelques parkings extérieurs, mais je rappelle qu'il y a 30% des ménages qui n'ont pas de voiture en ville. On pourrait aussi penser une fois à eux, et peut-être qu'on arriverait peut-être au taux de 40%, comme en ville de Berne, ou bien à Bâle, où c'est même 50% au centre-ville sans voiture. Et c'est vrai que dans des quartiers... urbain, que ce soit Artamis, la pointe de la Jonction ou la
future,
ou Châtelaine, c'est un peu discutable, mais c'est vrai que parce qu'on a remis les artisans qu'on a délogés de Sécheron, donc on ne va pas les redéloger encore une fois, mais une partie, c'est vrai que pour être mieux utilisée, parce qu'actuellement la ville a acheté ce terrain 14 millions il y a 10 ans. Il y a quelques artisans, c'est bien, mais le reste, c'est pour garer le bibliobus et puis des camions de pompiers, c'est peut-être pas vraiment...
Un parking un peu cher.
Voilà,
un parking
un peu cher. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut faire des projets innovateurs et je suis sûre qu'on peut trouver des gens qui sont d'accord de venir parce qu'ils auront aussi des avantages à être dans un quartier sans voiture avec toutes les activités à proximité.
Est-ce que vous savez si, par exemple, si on prend des exemples comme Fribourg-en-Brisgau, si ces écoquartiers ont moins d'insécurité?
En tout cas, pour ce que j'en ai vu, bon, c'est clair qu'on ne peut pas tout à fait, même si le nombre d'habitants à peu près est le même, Fribourg-en-Brisgau, c'est vraiment une ville assez... sûr et cosy, mais en tout cas dans les éco-quartiers, c'est vrai qu'il y a moins d'insécurité, c'est sûr, pour l'instant en tout cas. Et disons, vu qu'il y a beaucoup plus de liens entre les habitants et que l'aménagement extérieur, c'est ça qui est frappant. Quand on va à Fribourg maintenant, alors que c'est des quartiers extrêmement récents, qui ont 5-6 ans, déjà, les aménagements extérieurs sont tout à fait agréables, divers. Il y a beaucoup de verdure et des verdures très différentes. C'est pas des haies de thuya qui sont simplement plantées là. Il y a beaucoup de diversité et c'est très agréable à voir, simplement à l'œil déjà. Donc, ça fait pas forcément envie de détruire ça. Donc, je pense que là, il y a déjà aussi une lutte contre l'insécurité et les gens se connaissent. Et plus on se connaît, moins on a des agressions comme ça, insensées.
Alors chez les Verts, bon, bien sûr, vous voulez un aménagement raisonnable, vous voulez aussi des jardins, des espaces verts pour que la vie soit agréable, mais cela est un petit peu, non pas en contradiction, comment est-ce que c'est possible de suivre en même temps la volonté à Genève, donc qui est de densifier la ville?
Mais je pense qu'on peut densifier, mais de manière intelligente. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans une fondation immobilière de droit public. Ben, on a trouvé des espaces pour faire des jardins potagers au pied des immeubles. Et il y a toujours une manière de faire un aménagement cohérent. Moi, je suis scandalisée quand je vois des aménagements où on fait simplement de la densité et on a oublié même de faire une place de jeu pour enfants. Ou bien on met un aménagement de place de jeu avec la sortie d'aération du parking au milieu de la place de jeu. Enfin, des choses comme ça, ça ne devrait plus être possible. Et c'est vrai que si on n'a pas de voiture dans le quartier, c'est tout ça d'espace libéré pour les habitants, pour marcher dehors. Et je vous garantis qu'à Freiburg, la densité est assez élevée, mais en fait, le fait de pouvoir marcher au milieu de la rue, ça dégage beaucoup d'espace et l'impression d'espace est très différente.
En ce moment-là, peut-être que vos opposants vous reprocheront d'être contre une certaine mobilité, dire que ce n'est pas simplement pour des promeneurs, on l'a entendu ici, que dans une ville on travaille et qu'il faut bien absolument laisser faciliter la circulation.
Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que la circulation ne facilite pas tellement le travail parce que les gens perdent beaucoup de temps. Ils ont l'impression d'aller vite, mais en réalité, quand il faut trouver une place et amener sa voiture quelque part, on perd plus de temps qu'en allant à pied ou en transport public, voire en vélo, qui est un des moyens les plus rapides à Genève. Et je pense que la plupart des gens commencent à se rendre compte que... et là, il y a eu la FASD qui a gagné un prix de la mobilité parce qu'ils se sont rendus compte, donc c'est les services qui s'occupent des soins et aides à domicile dans le quartier de la Servette, ils ont organisé les soins avec, d'une part, le vélo à pied et, dans les cas où c'est nécessaire, avec la location d'une voiture mobility. Mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup plus de temps à passer avec les personnes âgées que quand ils roulent pour aller chercher une place et ils s'énervent, alors qu'en fait, le quartier, le périmètre desservi était finalement assez petit et inutile de prendre une voiture pour faire ces déplacements-là.
Alors je crois que les autorités se déplacent souvent à Fribourg-en-Brisgau pour constater, pour voir comment cela fonctionne. Tout le monde, je crois, en revient enchanté de n'importe quelle partie.
J'aimerais bien d'ailleurs que Robert Kramer et Marc Müller se proposent d'aller là-bas parce que c'est vrai que ils en ont beaucoup entendu parler, mais ils n'ont pas encore vu. Et je crois que moi, ce qui m'a le plus désespéré quand j'étais là-bas avec justement Laurent Moutineau et puis des équipes qui s'occupent d'aménagement du territoire, certains aménagistes disaient « Ouais, c'est bien, mais chez nous, c'est pas possible. » Puis on se disait « Mais pourquoi ?» En fait, pourquoi ce serait pas possible d'avoir plus de créativité, d'avoir des aménagements différents? Parce qu'au fond, il faudrait passer aussi par une gestion par objectif dans les PLQ, de dire bon ben voilà, cet espace-là, on veut 50 logements par hypothèse, ces arbres-là doivent être préservés et telle fonction doit être préservée. Puis ensuite, liberté à l'architecte pour proposer un projet créatif, parce que malheureusement, on voit maintenant que ça se résume souvent à un immeuble de 5 étages avec 2 allées, et puis c'est une barre, et puis on n'a pas beaucoup progressé depuis les années 60, hein, c'est toujours la même barre.
Et vous allez peut-être me dire que le construire sous forme d'éco-quartier ne coûterait pas plus cher.
Non, évidemment non.
Et ni puis, moins,
bien sûr. Il y a des choses qui coûtent plus cher, c'est vrai, un petit peu, c'est l'isolation, c'est le fait de... Mais après, on s'y retrouve, parce que à Freiburg, par exemple, il y a des villas qui sont construites qui consomment moins d'énergie qu'elles n'en produisent. C'est quand même incroyable. Et ici, c'est tout à fait possible de faire ça. Et si on limite les parkings, parce que une des possibilités d'économie, c'est aussi les parkings, parce que j'aimerais rappeler que ça coûte 40 000 francs la place. Donc, des fois, en tant que fondation qui construit des logements très bon marché, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de mettre 40 000 francs pour une place de parking alors qu'on va mettre 160 000 pour l'appartement? Moi, j'aimerais mieux qu'on construise plus d'appartements et moins de places de parking. Et il faut que tous ceux qui veulent sans arrêt des parkings souterrains soient aussi attentifs au prix délirant que ça coûte.
Alors, nous avons parlé des autorités, des politiques, mais comment est-ce perçu par la population? Est-ce que vous sentez un intérêt grandissant, puisque au moment où ces écoquartiers ont été lancés, c'était il y a une quarantaine d'années, je crois, à peu près.
Même pas. C'est plus récent. Mais...
C'était après le post-Larzac, c'était cette période. Et c'était aussi considéré comme petit peu utopiste, irréaliste, tandis qu'aujourd'hui, des exemples précis existent. Enfin, on peut les voir, on a cité Fribourg, mais il y en a d'autres. Sentez-vous une demande déjà, enfin, d'information de la part de la population? Voilà, sentez-vous un intérêt?
L'intérêt, c'est sûr. Il y a plein de gens qui sont intéressés et qui ont envie d'y vivre. Et les quelques expériences simplement de rues fermées au trafic, même des gens très simples, qui ne sont pas des gens qui étaient forcément convaincus de l'écologie politique et de choses comme ça, en fait, sont enchantés d'avoir une rue fermée au trafic parce qu'ils se disent bah, « c'est génial, les enfants peuvent apprendre à faire du patin roulette, des vélos ». Et puis, ils trouvent que ça vaut vraiment la peine d'investir dans ce domaine, et ils sont enchantés, et plusieurs personnes nous ont dit c'est où qu'on construit le prochain écoquartier, moi je suis intéressée.
En même temps, donc bien sûr, là, vous travaillez aussi pour résoudre le problème du logement qui semble avoir été pris au sérieux. Là, depuis peu de temps, on voit les décisions, disons, véritablement prennent forme dans différentes, aussi bien Mérin que vers la Chapelle d'Issy et autres. C'est,
oui, je pense que je crois que ça avait été lancé déjà au départ par Laurent Moutinot, mais Robert Kramer et Marc Miller ont vraiment mis le turbo maintenant, et ils exigent que maintenant on construise rapidement. Et je crois que Mérin, c'est vraiment un bon exemple, parce qu'il y a eu une bonne concertation avec la commune, avec les habitants, et on arrive à un projet intéressant avec beaucoup de diversité. Le tram qui arrive, c'est pas encore l'éco-quartier parfait, mais au moins c'est un quartier intéressant où on se dit ben, pourquoi pas y vivre. Et c'est ça que j'aimerais un peu partout. Et après, il y a aussi la question du logement social, et ça, en ville, c'est différent déjà.
Vous voulez qu'il y ait que la proportion soit, je crois, selon votre programme, triplée là, de groupements d'utilité publique.
Oui, tout à fait. Simplement, en ville de Genève, la ville possède plus de 5000 logements, mais en fait, elle a un barème qui est assez, qui paraît social, mais qui ne l'est pas forcément. Et du moment que les gens payent le loyer vrai, entre guillemets, on leur demande plus rien. Donc il y a des gens qui sont seuls dans un grand appartement, ou bien qui ont un grand revenu, qui payent simplement les 1500 francs de base. Et là, franchement, j'aimerais bien, d'une part, faire une fondation communale comme les fondations, et appliquer le même barème qu'à l'État. Et ça clarifierait aussi pour les citoyens. Une seule feuille d'inscription. Mon rêve, ce serait vraiment qu'il y ait vraiment la maison du logement où on pourrait aller s'inscrire, et où on aurait une feuille d'inscription, à la limite même avec les privés, pour les logements tout à fait ordinaires, et qu'on soit vraiment conseillé quel type de logement on peut avoir en ville de Genève.
Et pour pouvoir faire cette vision d'un monde agréable dans l'écoquartier, il y a, vous nous avez parlé des places de parking, mais il y a surtout quelque chose qui devrait être installé, ce sont les crèches.
Oui, bien sûr, mais c'est clair qu'il faut avoir dans chaque quartier des crèches, et puis qui soient accessibles à pied de manière agréable. Parce que la dernière crèche, que je viens d'apprendre, c'est qu'au Charmy, on a fait une crèche avec un badge spécial. Les parents peuvent venir en voiture directement dans le parking souterrain, prendre leur badge spécial pour monter en ascenseur. Puis disons, bon, c'est très pratique, mais c'est pas vraiment les crèches que je souhaiterais pour les enfants. J'aimerais qu'ils voient un peu l'extérieur de temps en temps.
Donc, ils peuvent venir en voiture, mais que la voiture, c'est une poussette.
Voilà.
Michel Künzler, merci donc de nous avoir expliqué problèmes qui s'étaient aussi liés à la culture. Pour un rapide retour sur ce côté culturel, est-ce que vous êtes pour ces états généraux ou ces assises culturelles que les artistes demandent pour revoir une refondation totale de la façon dont la culture est gérée dans la ville?
Pourquoi pas, on peut toujours discuter, mais en fait, la discussion actuelle, elle porte pas tellement sur ça, mais c'est vrai qu'on peut aussi, dans la perspective, il me semble, de la constituante, là, il y aurait quelque chose à discuter. Alors, comment on répartit les charges entre les communes et le canton, et qu'est-ce qu'on veut faire comme culture? Mais voilà. Pour l'instant, il me semble qu'il faudrait plutôt rester à quelque chose de plus simple en disant, ben voilà, on regroupe les subventions.
Mais d'après ce que les organisateurs de cette conférence ont précisé ce matin, je crois qu'ils vont justement demander ces assises culturelles pour revoir l'ensemble.
Oh, tant mieux. On peut toujours discuter. Je trouve toujours plus on a d'informations et plus de discussions, c'est toujours positif pour la collectivité.
Merci Michel Künstler. Je rappelle que vous êtes donc députée verte et que vous êtes candidate au conseil administratif.
Merci de m'avoir reçue.